La situation des Émirats arabes unis est assez particulière. Les femmes diplômées sont plus nombreuses que les hommes. C'est le taux le plus élevé du monde arabe. La présidente de la Fédération des femmes des Émirats arabes unis n'est autre que l'épouse du président Moubarak. Elle s'est fixée pour but l'éradication de l'analphabétisation. C'est un des rares États où les filles ne sont pas discriminées dans la scolarisation, tout comme en Jordanie. Par contre, 6% des hommes mariés sont polygames, contre 16,8% au Soudan, 12% en Arabie Saoudite et 1,8% en Algérie, 0,5% en Tunisie. Là, le féminisme est étatisé, pour ne pas dire muselé. Les femmes suivent les cours de défense civile et des entraînements militaires, mais elles n'ont pas le droit de vote, tout comme en Arabie Saoudite ou en Syrie. Au Koweït, elles viennent de participer à leur premier suffrage. Le Maroc, eh bien, au Maroc, ce n'est que vers les années 80 que le féminisme s'est organisé, tout en restant tributaire des partis politiques. Dans ce pays, le roi, en l'occurrence Hassan II, est l'émir de tous les croyants. Et lors d'un récent entretien télévisé, il se déclarait ouvert à la participation des femmes à la vie politique et voyait possible l'avènement d'une ministre. Les femmes, dit-il, sont très travailleuses et sont des éléments positifs importants. Je n'en connais pas une qui soit corrompue dans l'exercice de ses fonctions. Il se dit à l'écoute des revendications émises par le Conseil des femmes en vue d'une réforme du statut personnel. Il continue, seules les choses interdites formellement par le Coran peuvent être accordées, ne peuvent être accordées aux femmes, précise-t-il cependant. Une association s'est créée en 1992 pour la défense des droits de la femme. L'une d'entre elles fait figure de battante, dénonçant l'égalité de façade régnant au Maroc, malgré la constitution de 1962 qui stipule que l'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Fatima Alaoui, c'est son nom, se bat corps et âme. Elle refuse de se contenter de palabres quant à la participation des femmes à la vie civique et dénonce les abus et discriminations. Elle préside, et c'est une première, le tout nouveau Parti des Verts, créé à la veille des élections de 1992. Est-ce parce que ce mouvement est dirigé par une femme ? Il a subi récemment des tentatives d'intimidation. Fatima milite également pour la création de cellules SOS Viol et lutte contre l'abus de pouvoir au Maroc. En effet, une récente affaire vient de secouer la société marocaine à l'aube même de l'espoir que représente l'adoption de la nouvelle constitution. Des centaines, voire des milliers de femmes auraient été torturées et violées sur les ordres d'un commissaire, naturellement au-dessus de tout soupçon. Des fichiers contrefaits, des motifs d'inculpation cousus main, des revendications féministes muselées depuis plus de 20 ans. C'est dans ce climat que les Marocaines se sont souvent et longtemps battues.
Oh, we said it's a year, it's low, but it's fair.
L'Algérie n'est pas le seul pays où les femmes ont lutté aux côtés des hommes. En Palestine, leur vie a toujours été liée à la lutte de leur peuple. En 1965, l'engagement féminin dans la résistance aboutit à la création de l'Union générale des femmes palestiniennes. Rappelez-vous, la semaine passée, Oumra Lil de la fondation Inach El Ousra évoquait la Palestine en disant « il y a des associations de femmes comme partout ailleurs ». La déclaration d'indépendance proclamée en 1988 de constitution de l'État palestinien en exil à Alger stipule qu'il n'y aura aucune discrimination dans la nouvelle constitution. Une mention particulière retient l'attention. Nous rendons hommage à la femme palestinienne, héroïque gardienne de notre pérennité et de notre existence et du feu qui nous anime. En 1989, un Haut Conseil des femmes coordonne les diverses associations existant en Palestine. Tout comme les Palestiniennes, depuis 1914, les Syriennes militent au sein de groupes clandestins. Le mouvement féminin se limite jusqu'en 1966 à de nombreuses organisations à caractère social. Actuellement, les associations féminines sont sous la coupe de l'État. Malheureusement, le régime en vigueur est encore féodal et si la liberté d'expression est restreinte en général, pour les Syriennes, elle est bien sûr quasiment inexistante. En Israël, leurs voisines, leurs voisins, c'est une volonté de paix qui rassemble pour la première fois en 1988 les femmes de ce pays. À Jérusalem, tous les vendredis, des femmes en noir, opposées à la guerre, se réunissent et manifestent silencieusement. Ces groupes de femmes sont agressées verbalement et physiquement par l'armée israélienne qui les traite de sorcières, qui ne cherchent qu'à se faire baiser par les Arabes. Mais pourtant, leurs rencontres multiples, avant et après la guerre du Golfe, auront permis, bien avant les hommes, des rencontres de paix. Mais c'est certainement dans le Maghreb qu'existe la volonté commune la plus forte d'émancipation et de résistance à l'intégrisme religieux. Ainsi, Fatima Mernissi, qui est sociologue et écrivaine, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui qui a pour titre « Harem politique et les sultanes oubliées », elle est membre du Conseil de l'Université des Nations Unies. Elle est également l'initiatrice du projet Femmes Maghreb 2002, qui vise à mettre en place une chaîne créatrice à l'échelle du Maghreb, où chacune et chacun est appelé à mettre toutes ses potentialités de création au service du changement des mentalités. La chaîne a déjà à son actif plusieurs ateliers d'écriture et la production de livres et de vidéoclips. Autre exemple concret de cette volonté d'émancipation, c'est l'atelier de formation et d'échange sur le leadership féminin au Maghreb qui s'est tenu les 7, 8 et 9 mai 1993 à Hammamet en Tunisie. Cet atelier réunissait des Marocaines, des Algériennes, des Tunisiennes, une Canadienne et la présidente du Parlement norvégien et membre du Conseil de l'Europe, Inger Lisligsvorg. L'idée n'était pas d'établir un constat de carence ou d'absence. La présence de plus en plus nombreuse de femmes compétentes dans un nombre de plus en plus important de secteurs publics est un fait établi au Maghreb. Il s'agissait donc de favoriser l'échange entre femmes du Maghreb, leaders dans divers domaines de la vie publique et associative, en les confrontant à l'expérience de femmes du Nord. Cet échange devrait permettre d'établir des stratégies, d'avoir un planning pour aider les femmes à être en accord avec elles-mêmes et avec la société, une société plus ouverte aux femmes, plus juste, plus libre, plus développée. L'analyse de ce que pourrait être un modèle du leadership féminin a permis de mettre en valeur des qualités jusque-là marginalisées ou rejetées au profit de modèles classiques de leadership. Et cette marginalisation a elle-même été analysée comme d'autres techniques de domination qui empêchent les femmes de prendre part à la prise de décision, les relèguent au rang d'exécutantes ou de simples spectatrices. Et un rendez-vous a déjà été fixé pour le mois de mars de l'année prochaine. Donc, peu à peu, les femmes nord-africaines s'organisent et même si les mouvements des femmes en Arabie saoudite ou celui des femmes sahraouies ne répond pas tout à fait à notre définition occidentale du féminisme, ils démontrent en tout cas qu'il existe une volonté remarquable d'émancipation, de quoi prouver que, voilée ou non, le féminisme existe bel et bien et depuis fort longtemps dans les pays musulmans du nord de l'Afrique. Cet article tiré de Femmes Suisses de juin-juillet 1993 était signé Sylviane Klein et toutes les sources historiques ont été tirées essentiellement de l'agenda des femmes arabes 1993 réalisé par Sakina Balo-Sherad qui habite Genève. Je répète, Agenda des femmes arabes 1993, que vous pouvez toujours vous procurer encore, et nous espérons qu'il y en aura un 94. Je vous propose maintenant d'écouter une interview réalisée par un journaliste, Stéphane Gilliot. Une interview de la psychiatre, écrivaine et femme égyptienne Nawal El Sadawi, qui défend la cause des femmes depuis plus de 30 ans. Je vous le disais, elle est psychiatre écrivaine, elle est égyptienne. Ses ouvrages sont souvent des best-sellers dans le monde arabe depuis plus de 30 ans, mais aussi chez nous. Par exemple, un livre que peut-être vous avez lu qui a pour titre « Ferdaous », qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui choisit d'être plutôt prostituée que de vivre en esclave. Nous en reparlerons d'ailleurs avec Nawal El Sadawi dans son interview. Alors, cette écrivaine n'est pas toujours très appréciée par les milieux conservateurs, à tel point qu'elle s'est retrouvée en prison sous sa date et que sa tête était mise à prix par certains milieux intégristes. Elle ne se déplace plus dans son pays qu'entourée de gardes du corps et pourtant, à travers romans, essais, pièces de théâtre et conférences, elle défend inlassablement les femmes et s'élève contre les comportements sexistes qui les réduisent à un statut inférieur. Sans grand succès, si l'on en juge par la régression que connaissent les femmes depuis les années 60 dans la plupart des pays arabes. L'esclavage se décline de multiples manières. On a parlé du voile, on parle bien sûr de soumission totale, de mimétisme, de fatalisme, voire de prostitution. Elle était de passage en Suisse. Et entre deux tournées de conférences sur le continent américain, eh bien, Nawal El Sadawi a bien voulu répondre aux questions de Stéphane Gilliot. Alors là, voici la première question qu'il lui pose. Vous êtes une des rares femmes arabes à avoir osé vous élever de façon si virulente et si poignante contre les tares d'une société qui n'en finit pas d'étouffer les velléités d'émancipation de ces femmes. Vous-même avez été menacée à plusieurs reprises par certains milieux intégristes, à tel point que vous devez faire appel à une protection rapprochée lorsque vous vous trouvez dans votre pays. Comment expliquez-vous cette suspicion, cette hargne même? Vos prises de position sont-elles si révolutionnaires pour le monde arabe? Voilà la réponse de Nawar El Sadawi. J'aimerais tout d'abord dire que mes ouvrages sont très largement répandus dans le monde arabe et que la majorité de mes lectrices et lecteurs les apprécient. Le problème, enfin mon problème, est que les détenteurs du pouvoir, eux, ne les aiment pas du tout. Alors pourquoi ? À leur avis, mes textes menacent leurs prérogatives puisqu'ils mettent en lumière l'exploitation d'un système patriarcal profondément enraciné dans les mentalités. Cela dit, je crois que mon analyse n'est pas seulement valable pour les pays arabes, mais également pour les pays occidentaux. Notez que je peux comprendre en un sens. Mes ouvrages tentent en effet de dénouer la trame d'une exploitation à multiples visages, qu'elle soit le fait du colonialisme, de régimes à poigne, de structures familiales ou de l'individu même. L'oppression politique se conjugue avec l'oppression économique, sociale, sexuelle, psychologique et culturelle. Les femmes en sont certes les premières victimes, mais n'oublions pas la cohorte des pauvres et des laissés pour compte. Voilà pourquoi les détenteurs du pouvoir, quels qu'ils soient, regardent ma démarche de travers. En 1972, par exemple, je perds mon poste au gouvernement. En 1981, sa date me jette en prison. Et aujourd'hui, je me retrouve sur la liste noire des groupes extrémistes, dont certains n'hésitent pas à me vouer aux gémonies en utilisant des slogans pseudo-religieux à mon encontre. Oui, on peut dire que mes ouvrages sont révolutionnaires, mais pas dans un sens idéologique. Si l'on retrouve le mot « liberté » dans la phraséologie politique arabe, il est plutôt synonyme d'indépendance, sous-entendu nationale. Il est très peu question de liberté individuelle. Or, vous renversez la dialectique et militez d'abord pour l'émancipation des individus, des femmes en particulier. Pensez-vous que le salut de la société arabe passe d'abord par la liberté de ces dernières, ou bien la lutte d'émancipation nationale a-t-elle tout de même la priorité ? Nawar El-Sadawi, je ne pense pas que des femmes puissent être libres dans un pays qui ne l'est pas. Et l'inverse est également vrai. Un pays ne peut être vraiment indépendant si plus de la moitié de sa population, les femmes, vit dans l'oppression. Quant à savoir quelle démarche précède l'autre, cela dépend des situations. L'une ne va pas de toute façon sans l'autre. Nous devons lutter pour nous libérer nous-mêmes et la société en même temps. Dans votre roman « Ferdaous », l'un de vos ouvrages les plus radicaux, où vous racontez l'histoire, véridique paraît-il, d'une jeune femme qui se prostitue « librement », entre guillemets, tue un proxénète et finit condamnée à mort. Vous poussez la logique de l'oppression jusqu'à l'absurde. Vous y laissez imaginer que Ferdaous préfère le trottoir que le mensonge et un esclavage qui ne veut pas dire son nom. L'héroïsme tragique de cette femme n'est-il pas trop radical pour les femmes arabes qui vous lisent ? Ce roman n'est bien évidemment pas une apologie de la prostitution. Tout au contraire, je montre comment un système patriarcal peut contraindre certaines femmes, comme Ferdaous, à devenir filles publiques. Or, que veut Ferdaous ? Tout simplement, un peu d'amour et de liberté. Elle en est finalement réduite à quémander l'affection fugitive de quelques clients. Sa vie de prostituée n'est en fait qu'une lente agonie. Ce que je voulais montrer par là, c'est que la femme recherche, envers et contre tout, la dignité et le respect. Le personnage de Ferdaous est dans ce sens révolutionnaire, car il ne cesse de lutter pour un peu d'humanité, désespérément certes, mais il lutte. Si j'en crois les témoignages de quelques-unes de mes lectrices, le message est bien passé. Une prostituée suisse qui a lu Ferdaous a même complètement ses activités, après avoir refermé le livre. Nawal El-Sadawi, vous êtes une musulmane respectueuse de votre croyance et vous vous attaquez néanmoins à l'un des enseignements du Coran les plus enracinés dans l'inconscient collectif des peuples arabes. La femme doit se soumettre à l'homme. Est-il possible, selon vous, de relire les textes islamiques d'un point de vue féministe ou est-ce que toute émancipation ne peut se faire que contre les paroles du prophète ou bien de leurs interprétations ? À mon avis, l'islam, comme d'ailleurs n'importe quelle autre religion, n'est pas a priori contre la libération des femmes, ni pour d'ailleurs. Tout est question d'interprétation. Or, ce sont toujours les hommes qui, dans l'histoire, ont interprété les paroles divines. La boucle est bouclée. Cela dit, il existe tout de même des théologiens musulmans qui rompent avec l'interprétation littérale et commencent à donner une vision plus pondérée de la femme et de son statut dans l'islam. Je rajouterai, en tant que lectrice, qu'il existe aussi des femmes qui se sont attachées à la question. Vous passez beaucoup de temps en Occident pour témoigner de votre combat. Le féminisme à l'occidental vous est donc familier. Pensez-vous qu'il peut fournir un modèle de libération pour les femmes arabes ou ces dernières doivent-elles inventer leur propre voie ? La démocratie et la liberté à l'occidental sont, à mon avis, des illusions. Ce n'est donc pas là que nous devons chercher notre modèle d'émancipation. Il nous faut faire preuve d'imagination, créer notre propre conception de la liberté. Comment ? Il faut tout d'abord créer les conditions sociales d'une réflexion sur le rôle des femmes au sein des sociétés arabes. Je pense notamment à la vie associative qui n'existe encore qu'à l'état embryonnaire, à la création de groupes de rencontres, voire de partis politiques rassemblant des femmes. Nous avons essayé de le faire à plusieurs reprises, mais la dernière tentative en date s'est soldée par un échec. L'Arab Women Solidarity Association, l'association pour la solidarité des femmes arabes, que je présidais, a été interdite le 15 juin 1991 par décret du gouvernement égyptien. On recommencera, même s'il faut crier, longtemps. Le décor tout d'abord. Une salle de conférence perdue dans un château magnifique, lui-même perdu dans la campagne seuleroise. Il est 9h du matin au château Val d'Aigle, le 31 mars 1993. Invité par l'Académie suisse pour le développement et l'Office fédéral de la culture, des sociologues, des juristes, des politologues, un zeste de théologiens, dont un ayatollah iranien, une poignée de femmes attentives et trois musulmanes, tout ce monde se perd en mondanité. On sent que chacun et surtout chacune veut en découdre. Mais Nawal El-Sadaoui ouvre les feux avec son énergie habituelle. Le port du voile n'a jamais été un précepte islamique. C'est plutôt l'expression de l'esclavage, le signe que l'homme enferme sa femme, la réduit à l'état de propriété privée. Elle continue, tout sourire. Il faut en finir avec ces experts qui croient lire dans les textes religieux la volonté de Dieu et l'imposer aux femmes. La toute jeune interprète iranienne, voilée comme il se doit, applaudit discrètement, les yeux baissés. L'ayatollah Misbah Hasdi, professeur à l'université de Qom en Iran, lui ne bronche pas. Il prend des notes. Miadi Zineb, qui est une sociologue à l'université de Casablanca au Maroc, vient à la rescousse. En tant que femme musulmane, j'interprète ce verset comme étant l'affirmation de l'égalité absolue de l'homme et de la femme devant Dieu. Tout le reste est question d'interprétation. Quand on voile, on peut le porter ou pas. Ce n'est pas une affaire. L'ayatollah Yazdi intervient. Au nom de Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, j'éprouve beaucoup de respect pour mes deux sœurs dans la foi. Le Coran est sacré et on ne peut pas laisser son interprétation à n'importe qui. Les femmes doivent suivre son enseignement et ne pas essayer de s'y soustraire. Shala Habibi, conseillère du gouvernement iranien pour les questions féminines, abonde dans le même sens. La femme a un rôle primordial à jouer dans la société, mettre au monde des enfants et les éduquer. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire carrière, comme l'on dit en Occident. Le voile les protège des hommes et leur permet de participer pleinement à la vie civile. C'est une question de respect. Nawal El-Sadaoui, épouse, mère de famille, attentive, la regarde de travers. Miadi Zineb, mère de deux filles, elle aussi, tout saute. Ambiance. Mais la conversation continue courtoise. Les trois femmes se renvoient la balle sous le regard d'une assemblée ravie. L'ayatollah semble de plus en plus perdu. Il ne prend plus de notes. Trois femmes musulmanes font librement de la théologie. C'était un dossier dans le journal Femmes Suisses, publié en juin-juillet 1993. Vous y trouviez la plume de Sylviane Klein, qui nous donnait des nouvelles de tous les pays arabes, et puis une interview de Nawal El-Sadaoui, écrivaine égyptienne, et puis ce petit rapport particulier d'une rencontre entre femmes. Voilà, c'était aujourd'hui notre petit... contribution à la découverte du choc des cultures en Suisse, question qu'il reste bien sûr à discuter, à approfondir pour nous, mais surtout la parole donnée aux femmes concernées. We'll be right back. C'est la voix de Djoura que vous aurez entendue tout au long de cette émission, celle de Hachaman, qui est une chanteuse égyptienne. Et j'espère que ce petit dossier vous aura intéressé. Pour finir notre émission, je vous propose une toute autre musique, celle des Pretenders. Mais avant de nous lancer dans cette musique complètement différente, je voulais vous dire que j'ai trouvé un livre qui m'a fort intéressée, qui a pour titre « La religion par les femmes ». Et qui nous donne un portrait des femmes bien différent de celui dont on nous donne pour les femmes musulmanes, qui nous parle de femmes exceptionnelles comme Julia, femme de vin en Afrique orientale, comme Khnana Nanda de Madras, qui est mère gourou, et bien d'autres femmes encore, comme des femmes chamanes en Corée, ou des femmes qui entraient en extase et en possession dans la Grèce antique. Bref, toutes ces femmes qui ont leur place dans la religion, à un moment donné ou à un autre de notre histoire. Et j'avais envie, une fois par mois, de vous faire part d'un de ces portraits, d'une de ces histoires. Alors, dans un mois à peu près, nous nous retrouverons sur le thème « La religion par les femmes » et tout de suite, les Pretenders.
To the love land.